Il est 13h à Bangui, le journal de la mi-journée avec Martial Steven Betisinga. Martial, bonjour.
Bonjour Nina Verdiania Boudi, bonjour à tous. Des images des éléments FACA circulent sur les réseaux sociaux après l'attaque de leur base à Sikikédé. 3 jours après, aucune réaction des autorités du pays. Des réactions à suivre dans cette édition. Des centaines de personnes sont sans abri à Bakala, au centre du pays. C'est après une pluie torrentielle mardi. Pendant ce temps, proche de la sous-préfecture de Aba, dans l'ouest du pays, un incendie a ravagé au moins 16 maisons et des plantations. Football, tournoi de la semaine de l'enseignement. Le lycée de Fatima remporte la coupe devant le lycée de Bimbo. 4-1.
Martial, depuis quelques jours, des images des hommes présentés comme des éléments des FACA pris en otage par des rebelles circulent sur les réseaux sociaux.
C'est après l'attaque d'une position de l'armée dans le village Sikikédé, à plus de 200 km de Birao, dans la Vakaga. Mais voilà 3 jours, aucune réaction officielle du gouvernement, ni de l'état-major des armées, ni sur cette attaque, ni sur cette prise d'otage. Armando Yangenji, bonjour.
Bonjour, Martial Steve Betisinga, bonjour à tous.
Vous avez regardé certaines séquences vidéo publiées sur les réseaux sociaux.
Effectivement, ces images de FACA prises en otage tournent en boucle sur les réseaux sociaux depuis 3 jours. Des vidéos dans lesquelles on voit une vingtaine de militaires dans un pick-up des rebelles, puis autour du feu dans la base des assaillants. Une autre séquence présente ces soldats dans une cellule. Mais celle qui est devenue virale et qui choque, c'est celle qui présente chacun de ces militaires pris en otage, décliner leur identité et leur numéro de matricule. Nous avons eu au téléphone le premier adjoint au maire de la commune de Wanja, Abakar Yaya, qui réside dans Sikikédé et qui a fui la localité. Il confirme la prise d'otage.
C'est vrai, l'information est réelle. Les FACA ont livré un combat sanglant, mais les rebelles sont nombreux. Ils sont plus de 300. Leur nombre dépasse celui des FACA. Les 24 militaires sont obligés de se rendre. 2 ont réussi à fuir et les 22 sont faits prisonniers.
Quelle est la réaction, Armando, du gouvernement à propos de ces images?
Jusqu'à présent, aucune réaction des autorités ni de l'état-major des forces armées centrafricaines. Toutefois, nous avons contacté le ministre de la Défense nationale ce matin, Claude Ramobiro, nous explique qu'il a déjà instruit le chef d'état-major à communiquer au moment venu sur les faits, mais il n'a cependant pas confirmé ni infirmé cette prise d'otage.
Armando, que disent l'opposition et la société civile?
Des voix se sont levées pour condamner le mutisme du gouvernement Mouloua chaque fois que des vies humaines sont ôtées. D'abord, le bloc républicain pour la défense de la constitution BRDC condamne l'acte et critique le silence du gouvernement. Crépin Bologumba, coordinateur du BRDC.
Mais c'est un silence coupable. C'est un manque de responsabilité, un manque d'égard vis-à-vis du sacrifice consenti par les éléments des forces armées centrafricaines. Vous savez dans quelles conditions ils se battent, nos FACA. Ils n'ont pas de PGA, ou très peu. Ces PGA sont systématiquement détournés. Les conditions dans lesquelles cela se passe sont complètement inacceptables et scandaleuses.
C'est un sentiment de colère qui gagne le groupe de travail de la société civile GSCC. Son porte-parole, Paul Cressan Beniga, appelle le Premier ministre Félix Mouloua à rendre son tablier.
Nous condamnons cette recrudescence de violence, nous condamnons cette attaque, mais dans la même foulée, nous condamnons la passivité, le silence du gouvernement. Comment est-ce qu'on tue les fils du pays? On prend en otage les forces armées centrafricaines. L'état-major ne réagit pas, le ministère de la Défense ne réagit pas. C'est un silence de cimetière. Si le gouvernement est dépassé, le Premier ministre n'a qu'à remettre sa démission.
Un rappel, Martial, selon les autorités locales de Sikikédé, 4 militaires ont été tués. Les 20 FACA en otage seraient transférés à Aoukalé, non loin de la frontière centrafricano-tchadienne, là où se trouve une importante base de la CPC contre le par Ali Darassa, chef d'état-major de la CPC.
Merci à vous, Armando. De son côté, la MINUSCA se dit préoccupée par cette situation sécuritaire dans la Vakaga. La mission onusienne compte apporter une réponse après des échanges avec les autorités politico-militaires centrafricaines. Maxime Joël Lalaï.
Selon Vladimir Montero, porte-parole de la MINUSCA, il est d'abord important de se renseigner sur les faits concrets avant de réagir. Position exprimée au cours d'une conférence de presse ce mercredi.
La situation dans la Vakaga, elle est calme et récemment, il y a eu une patrouille de longue portée, de longue distance, conduite par les casques bleus rwandais et cambodgiens, de Bria à Samwanja en passant par Wada. La MINUSCA est en contact avec les autorités, que ce soit au niveau des FACA ainsi que les autorités professionnelles. électorale pour voir ce qui s'est passé dans cette zone et dans le cadre de son partenariat avec les autorités, apporter la réponse. Mais pour le moment, nous n'avons pas d'autres éléments.
S'agissant de la recrudescence de l'insécurité avec l'usage ces derniers jours des mines par des groupes armés dans le nord-ouest, la MINUSCA promet poursuivre ses opérations de déminage en vue de sécuriser ses patrouilles et la population. Abdelaziz Ouedraogo, porte-parole de la force onusienne.
La force et la MINUSCA condamnent fermement l'usage de ces engins-là et exhortent les auteurs à cesser immédiatement leur usage. Nous devons, coûte que coûte, nous rendre dans des zones où nous effectuons des dépollutions pour permettre le mouvement de nos patrouilles et le mouvement de nos troupes. Donc ces actions de dépollution vont se poursuivre pour permettre une liberté de manœuvre de nos unités afin d'exécuter pleinement leur mandat.
L'état-major des forces armées centrafricaines n'a pas encore communiqué sur l'attaque qui a eu lieu mardi au village Sigikédé dans la Vakaga.
L'actualité, c'est aussi les audiences de la session criminelle de Bangui qui se poursuivent.
Les juges de la cour d'appel traitent aujourd'hui l'affaire Gaston Johnson Kamaya Boma, accusé de meurtre. Hier, la cour a condamné Modeste Saint-Cyr Kalanda à 20 ans de travaux forcés. Il est reconnu coupable pour deux vols à main armée, détention illégale d'armes ainsi que des munitions de guerre. Les faits se sont produits en 2019 à Bimbo, à l'arrêt des Sœurs. Écoutons le délibéré de ce procès avec le président de l'audience, Marcel Kouy, au micro de Christophe Jordan Badingbi.
La cour, au nom du peuple centrafricain, et après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement et contradictoirement à l'égard des parties en matière criminelle avec le concours des jurés, à la majorité de voix et en dernier ressort, sur la culpabilité de l'accusé Kalanda Modeste Saint-Cyr, déclare l'accusé Kalanda Modeste Saint-Cyr coupable de vol à main armée et détention illégale d'armes et munitions de guerre, en application des articles 163, 167 et 259 du Code pénal centrafricain. En répression, lui accorde des circonstances atténuantes en application de l'article 50 du Code pénal. En conséquence, condamne Kalanda Modeste Saint-Cyr à 20 ans de travaux forcés.
La suite de l'actualité nous conduit à Bakala dans la Waka. Une pluie torrentielle a détruit mardi près d'une centaine de maisons d'habitation et plusieurs huttes dans le camp des déplacés de la ville.
Deux jours après cette catastrophe, de nombreuses familles touchées ont le regard tourné vers les ONG humanitaires et le gouvernement pour une assistance. Témoignage de Juvenal Bingindagi, un habitant de Bakala, contacté ce matin par Parfait Eddy Komessé.
Il y a de cela deux jours, une pluie qui s'est abattue sur la ville de Bakala. Et ça a causé des dégâts matériels. Les volontaires de la Croix-Rouge se sont mobilisés pour aller sur le terrain. Et ils ont enregistré 97 maisons écoulées. 20 huttes sur le site des déplacés ont porté. Puis il y a des victimes. On a parlé de trois femmes enceintes qui ont eu des blessures. Et il y a une femme allaitante aussi qui a eu des blessures et un homme aussi. Certaines maisons sont détruites à plat. Il y a d'autres, la toiture s'est enlevée, mais jusqu'à présent, il n'y a personne, il n'y a aucune ONG qui s'est volée à leur secours. Et toutes ces victimes-là, ils se retrouvent chez des parents. Que à chaque fois, il y a des choses pareilles qui se produisent dans la localité de Bakala, mais à chaque fois, aucune ONG n'est venue pour essayer de porter secours à ces victimes là-bas. Je compte sur votre antenne pour essayer de lancer un SOS aux ONG qui peuvent voler au secours de ces victimes-là.
Des personnes sans abri à Bakala après une pluie torrentielle, situation identique au village Mbartoa à 25 km de Aba, mais cette fois, c'est un incendie à l'origine.
Oui, trois champs d'arachides et de maïs ravagés et plus de 16 maisons brûlées selon les conseillers municipaux de la localité. Pour le moment, environ 80 personnes se trouvent sans abri. Pierre Ndako, conseiller municipal de Mbartoa, a été joint par Astrid de Bonheur Kulingi.
Il s'agit d'un feu de brousse qui a ravagé trois champs d'arachides et de maïs. En plus, on dénombre 16 maisons brûlées. Plusieurs biens ont été aussi consommés par le feu. Puisque les gens s'étaient rendus au champ au moment de l'incendie, on n'a pas enregistré un cas de décès. Mais de nombreuses familles qui sont restées sans abri dorment sous les arbres. Je demande au gouvernement et aux ONG d'assister ces sinistrés.
Le journal se poursuit. Martial, le gouvernement a lancé hier une autre campagne de vaccination contre la rage.
Effectivement, la vaccination qui prend fin aujourd'hui se déroule dans le 4e arrondissement et 6e arrondissement de Bangui et à Dekwa dans la Kémo. Les animaux de compagnie concernés sont les chiens, chats et singes à Bangui. Et Dalutindiko a suivi hier la vaccination dans le centre du 6e arrondissement.
La mobilisation est forte pour la première journée. Des centaines de propriétaires d'animaux domestiques s'alignent pour faire vacciner leurs bêtes ici à la mairie de Pétévaux dans le 6e arrondissement. Après des heures dans la queue, Kevin est parvenu à faire immuniser ses deux chiens.
Je viens d'être informé que la seconde étape est lancée. On m'a appelé, j'ai quitté le boulot, je suis venu et j'ai vu des gens amener des chiens, les chats et ça m'a plu. Bon, la première étape, on avait manqué parce qu'il y avait l'insuffisance des doses. Mes chiens ont l'habitude d'agresser les gens. Donc, une fois quand ils ont agressé les gens, on m'avait plainté au niveau de clinique. Quand j'étais là-bas, on m'a conseillé, il faut vacciner les chiens pour être protégé. Comme ils sont déjà vaccinés, donc je suis très ému. Je sais que je serai protégé.
Plus de 7000 doses sont disponibles pour cette deuxième campagne de vaccination. Docteur Ben Christian David Isula Songé, directeur de la santé publique vétérinaire au ministère de l'élevage, apprécie la mobilisation des propriétaires des animaux de compagnie concernés par ce vaccin contre la rage.
On a commencé notre deuxième campagne de vaccination qui est prévue pour 2 jours. Donc là, nous avons la date du 15 et la date du 16 février 2023. Donc, on reçoit les chiens, les chats et on a aussi les primates qu'on appelle communément les macacos. Donc, ça concerne ces animaux-là, ces animaux de compagnie que les gens ont à la maison. Il faut qu'ils amènent ça au niveau du 4e arrondissement et 6e arrondissement pour les vacciner.
Cette campagne est une occasion de rattrapage pour les animaux qui n'ont pas été vaccinés en décembre dernier. Cette deuxième phase de vaccination est organisée par le ministère de l'élevage en partenariat avec l'Institut Pasteur de Bangui.
À l'international, 2 localités du nord du Bénin instaurent un couvre-feu depuis lundi à cause de la présence des groupes armés.
Il s'agit de Kobli et de Matéri, 2 communes frontalières avec le Togo et le Burkina Faso. Ce sont des zones où les groupes armés opèrent depuis quelques temps. L'interdiction cible essentiellement les motos 2 et 3 roues à partir de 21h à 6h du matin jusqu'à nouvel ordre. Ces engins sont souvent utilisés par ces groupes armés pour commettre leurs forfaits. Toutes déviances seront interpellées selon l'arrêté de ces 2 municipalités. Seuls les déplacements sanitaires sont autorisés.
En RDC, la Commission électorale nationale indépendante CENI a lancé aujourd'hui les opérations d'enrôlement dans 7 provinces du pays.
Ces opérations concernent les régions de Bas-Ouélé, Ouélé, Ituri, Maniema, Nord-Kivu, Sud-Kivu et la Tsopo. À Goma, quelques dispositifs sont visibles sur le terrain et le déploiement des kits et autres matériels électoraux se poursuit. Cette opération débute alors que quelques régions du Nord Kivu se trouve sous occupation des rebelles du M23.
Et puis la Côte d'Ivoire annonce ce matin la réouverture de ses frontières terrestres.
Elles avaient été fermées depuis mars 2020 pour lutter contre la propagation du Covid-19. Selon les autorités du pays, l'évolution sanitaire et économique favorable en est la principale cause. La réouverture entre en vigueur ce jeudi. C'est après une décision prise hier lors du Conseil des ministres.
En sport, le lycée de Fatima remporte la finale de la Coupe de la semaine de l'enseignement.
Les élèves du lycée de Fatima ont battu ceux du lycée de Bimbo 4-1. Sur le terrain, le score était de 0-0 à la fin du temps réglementaire. Une finale qui a retenu l'attention de quelques supporters qui ont fait le déplacement ce matin pour suivre ce match à l'INJS. Bienvenue Gbilo a suivi cette finale. Reportage.
Un match bien maîtrisé par les 2 équipes qui se sont donné coup sur coup jusqu'à la pause. 0-0. Au retour sur le terrain, aucun d'entre ces jeunes footballeurs n'a pu marquer un but. L'arbitre siffle la fin du match. Les 2 équipes se dirigent à la séance des tirs au but. Le tout premier pénalty du lycée de Bimbo est raté. Teddy Polis, gardien du lycée de Fatima, a arrêté 2 pénaltys. Il est content d'avoir remporté ce trophée pour la première fois.
Je suis fier. Et puis je suis fier de notre équipe. J'encourage mes coéquipiers de doubler encore d'efforts. C'est mon habitude d'arrêter la pénalty.
Côté des supporters, c'est un sentiment de joie pour les élèves du lycée de Fatima qui sont venus massivement supporter leur équipe. Brenda Muriel Magnan, en classe de terminale A1.
Je suis vraiment fière de participer à ce match d'aujourd'hui. Toutes les démonstrations qu'ils ont faites sur le terrain, je suis vraiment épatée, je suis vraiment contente parce qu'ils ont mérité cette prime. Raison pour laquelle je me mets là pour féliciter mes collègues qui ont gagné au sein de notre établissement.
Les élèves du lycée de Bimbo ne sont pas abattus après cette défaite. Ils garde espoir pour un prochain tournoi. Yanfei Sonangai est le capitaine de son équipe.
C'est pas la fin du monde. Notre objectif, c'est de gagner le match. Mais comme on n'a pas allé jusqu'au bout, c'est ça.
Que vous allez faire pour les prochaines compétitions?
C'est de doubler l'effort.
C'est dans une ambiance festive que ce tournoi de football s'est déroulé et s'est achevé ce jeudi matin sur le terrain de l'INJS à Bangui avec le sacre des élèves du lycée de Fatima.
Merci à vous. Bienvenue, Bilo.
Football, un match en retard en deuxième division de la Ligue de Bangui est programmé aujourd'hui.
Cet après-midi à 15h, UFD affronte Club Athlétique de Bangui, CAB.
Football à l'international, deux matchs des huitièmes de finale de la Ligue européenne des champions ont été disputés hier.
Benfica a battu Club Brugge 2-0 et victoire du Borussia Dortmund face à Chelsea 1-0. Mardi dernier, AC Milan s'est offert une victoire à domicile contre Tottenham 1-0. Paris Saint-Germain s'est incliné au Parc des Princes devant Bayern Munich 1-0. Fin de cette édition de la mi-journée. Merci pour votre fidélité d'écoute. Ne quittez pas la version sango de votre journal. C'est tout de suite.